Léon Blois, la religion de Monsieur Pleur. Généralement, les individus qui ont excité mon dégoût en ce monde étaient des gens florissants et de bonne renommée. Quant aux coquins que j'ai connus, et ils ne sont pas en petit nombre, je pense à eux tous sans exception, avec plaisir et bienveillance. Thomas de Quincey. L'aspect de ce vieillard fécondait la vermine. Le fumier de son âme était tellement sur ses mains et sur son visage qu'il n'eût pas été possible d'imaginer un contact plus effrayant. Quand il allait par les rues, les ruisseaux les plus fangeux, tremblant de refléter son image, paraissaient avoir l'intention de remonter vers leur source. Sa fortune, qu'on disait colossale, et que les bons juges n'évaluaient qu'en pleurant d'extase, devait être caché dans de furieux endroits, car nul n'osait hasarder une ferme conjecture sur les placements financiers de ce cauchemar. Il se disait seulement que, diverses fois, on entrevit sa main de cadavre dans certaines manigances d'argent qui avaient abouti à des débâcles sublimes dont quelques éleveurs de grenouilles le supposait artisan. Il n'était pas juif, cependant, et lorsqu'on le traitait de vieille crapule, il avait une manière douce de répondre « Dieu vous le rende !» qui faisait courir sur l'échine des plus roublards un léger frisson. L'unique chose qui parut certaine, c'était que ce guenilleux effroyable possédait une maison de haut rapport dans l'un ou l'autre des grands quartiers excentriques. On ne savait pas exactement. Il en possédait peut-être plusieurs. La légende voulait qu'il couchât dans un antre obscur, sous l'escalier de service, entre le tuyau des latrines et la loge du concierge que ce voisinage identifiait. Ces quittances de loyer étaient, m'a-t-on dit, livrées par économie sur des déchirures d'affiches que des locataires pleins d'entre-gens revendirent à des collectionneurs astucieux. On racontait aussi l'histoire, devenue fameuse, d'une soupe fantastique trempée régulièrement le dimanche soir et qui devait le nourrir toute la semaine. Pour ne pas brûler le charbon, il la mangeait froide 6 jours de suite. Dès le mardi, naturellement, cette substance alimentaire devenait fétide. Alors, avec les révérencieuses façons d'un prêtre qui ouvre le tabernacle, il prenait dans une petite armoire scellée au mur et qui devait contenir d'étranges papiers une bouteille de très vieux rhum vraisemblablement recueilli dans quelque naufrage. Il en versait des gouttes rares dans un verre minuscule et se fortifiait dans l'espoir de les déguster aussitôt après avoir englouti son cataclasme. L'opération terminée, « Maintenant que tu as mangé ta soupe, disait-il, tu n'auras pas ton petit verre de rhum. » Et déloyalement, il revenait, renversait dans la bouteille le précieux liquide. Recommandable finesse qui réussissait toujours, depuis 30 ou 40 ans. Jamais un spectre ne parut être aussi complètement dénué de style et de caractère. Il avait beau rassembler par ses haillons et sans doute par quelques-unes de ses pratiques, aux youtres les plus conspués de Budapest ou d'Amsterdam, l'imagination d'un Prométhée n'aurait pu découvrir en lui le moindre linéament archaïque. Le surnom de Shylock, décerné par de subalternes imprécateurs, révoltait comme un blasphème, tellement cet avare n'exprimait que la platitude. Il n'avait de terrible que sa crasse et sa puanteur de bête crevée. Mais cela encore était d'un modernisme décourageant. Son ordure ne lui conférait la bienvenue dans aucun abîme. Il ne réalisait, en apparence du moins, que le bourgeois, le médiocre, le tueur de cygnes, comme disait Villiers, accompli et définitivement révolu, tel qu'il doit apparaître à la fin des fins quand les tremblements sortiront de leur tanière et que les sales âmes seront manifestés au grand jour. S'il pouvait être innocent de prostituer les mots, il aurait fallu comparer M. Pleur à quelque horrible prophète, annonciateur des vomissements de Dieu. Il semblait dire aux individus confortables que dégoûtait sa présence. « Mais ne comprenez-vous pas, ô mes frères, que je vous traduis pour l'éternité et que mon impure carcasse vous reflète prodigieusement ? Quand la vérité sera connue, vous découvrirez une bonne fois que j'étais votre vraie patrie, à tel point que, venant à disparaître, la pestilence de vos esprits me regrettera. Vous aurez la nostalgie de mon voisinage immonde qui vous faisait paraître vivant alors que vous étiez au-dessous du niveau des morts. Hypocrite, salaud, qui détestait en moi le dénonciateur silencieux de vos turpitudes, l'horreur matérielle que je vous inspire est précisément la mesure des abominations de votre pensée. Car enfin, de quoi pouvais-je donc être vermineux, sinon de vous-même qui me grouillez jusqu'au fond du cœur ? Le regard du drôle était particulièrement insupportable aux femmes élégantes qu'il paraissait exécrer, les fixant parfois d'un rayon plus pâle que le phosphore des charniers, œillades funèbres et visqueuses, qui se collaient à leur chair comme la salive des brucolaques et qu'elles emportaient en bramant d'effroi. « N'est-il pas vrai, mignonne ? » croyait-elle entendre. « Que tu viendras à mon rendez-vous ? Je te ferai visiter ma fosse gracieuse, et tu verras la jolie parure d'escargot et de scarabée noir que je te donnerai pour rehausser la blancheur de ta peau divine. Je suis amoureux de toi comme un chancre, et mes baisers, je t'assure, valent mieux que tous les divorces. Car vous puerez un jour, ma souris rose, vous puerez voluptueusement à côté de moi, et nous serons deux cassolettes sous les étoiles. » Mais il eût été difficile, encore une fois, malgré ce regard atroce, de donner un signe qui pût être appelé caractéristique de ce monsieur Pleur. La voix seule, peut-être, voix d'une douceur méchante et qui suggérait l'idée d'une impudique sacristain chuchotant des ignominies. Il avait par exemple une manière de prononcer le mot argent qui abolissait la notion de ce métal et même de sa valeur représentative. On entendait quelque chose comme erge ou ange selon le cas. Souvent aussi, on n'entendait rien du tout. Le mot s'évanouissait. Cela faisait une espèce de pudeur soudaine, une draperie tombant tout à coup au-devant du sanctuaire, une crainte inopinée de paraître obscène en dépoitraillant l'idole. Imaginez, si la chose vous amuse, un sculpteur fanatique, un pygmalion sanguinaire et doucereux, cherchant avec vous le point de vue de sa galatée et vous faisant reculer sournoisement jusqu'à une trappe ouverte pour vous engloutir. C'était si fort, cette passion jalouse pour l'argent, que quelques-uns s'y étaient trompés. On avait attribué d'horribles vices à ce dévot impénitent de la tirelire et du coffre-fort, soupçons injustes mais accrédités par quelques exégètes savants de la vie privée d'autrui, qu'il avait surpris en de mystérieux colloques de trottoir avec des femmes ou des enfants. Son culte s'exprimait parfois en de telles circonvolutions extatiques, le baveux hérétisme de sa ferveur atténuait si étrangement sa physionomie de fossoyeur calciné, et de si déshonnêtes soupirs s'exhalaient alors de son sein, que les vases de moindre élection dans lesquels il laissait tomber sa rare parole étaient excusables après tout de ne pas sentir passer entre eux et lui l'hypocondriaque majesté de l'idolâtrie. On me dispensera, je vous l'espérais, de faire connaître les raisons d'ordre exceptionnel qui déterminèrent un commerce d'amitié entre moi et ce personnage sympathique. J'étais jeune, oh alors très jeune même, et facilement accessible à l'enthousiasme. Monsieur Pleur se fit un plaisir de m'en saturer en se dévoilant à moi. Je crois être le seul qui ait reçu ses confidences. J'ajoute que ce souvenir m'a fort aidé à supporter une destinée plus que chienne, et, le personnage étant mort, il y a bien longtemps déjà, ma conscience me presse aujourd'hui de témoigner en faveur de ce méconnu. Quelques hommes de ma génération peuvent se rappeler sa fin tragique, arrivée dans les dernières années de l'Empire, et qui fit un assez grand bruit. L'assassinat dont les gazettes m'apportèrent les détails jusqu'aux environs du Cap Nord était assurément de l'espèce la plus banale, et les chenapans qui le perpétrèrent étaient peu dignes, il faut l'avouer, de la célébrité qu'ils obtinrent. Le vieillard avait été simplement étranglé sur sa couche nidoreuse par des bandits jusqu'alors privés de notoriété et qui n'avouèrent d'autre mobile que le vol. Mais certaines circonstances relatives seulement au passé de la victime et demeurées inexplicables exercèrent en vain quelques mois la sagacité des contemporains. Enfin, on crut deviner ou comprendre que M. Pleur n'avait pas été ce qu'il paraissait être. Bref, les assassins malchanceux, qui d'ailleurs se laissèrent prendre avec une extrême facilité, n'avaient pu découvrir le moindre trésor dans la tanière de l'avare, et quoique ce dernier fût mort intestat et sans héritier naturel, le domaine de l'État ne put étendre ses griffes sur aucune propriété mobilière ou immobilière. Il fut établi que le défunt ne possédait absolument rien, sinon l'intendance viagère et l'usufruit d'une fortune gigantesque inattaquablement aliénée dans les mains d'un certain évêque. Impossible de savoir ce qu'étaient devenues les considérables sommes qui avaient dû lui passer par les mains depuis tant d'années qu'il donnait lui-même quittance à des escadrons de locataires. Pas un titre, pas une valeur, rien de rien, excepté la fameuse bouteille de rhum vidée par les étrangleurs. Comme ceci est à peine un conte, j'ai le droit de ne pas promettre une conclusion plus dramatique. Je le répète, je n'ai voulu que donner mon témoignage, le seul, très probablement, qui puisse espérer l'ombre courroucée du mort. Qu'il me soit donc permis de résumer en quelques lignes les paroles assez curieuses qui me furent dites en diverses fois par ce solitaire ordinairement silencieux. Je ne crois pas que je sentirai jamais un si noir frisson quand ce lointain jour, où, côte à côte, sur un banc du jardin des plantes, il me fit entendre ceci. « Mon avarice vous fait peur. Eh bien, mon petit bonhomme, j'ai connu un prodigue, d'espèce moins rare qu'on ne pense, dont l'histoire vous donnera peut-être l'envie de baiser mes longues loques avec respect, si vous êtes assez doué pour la comprendre. Ce prodigue était un maniaque, naturellement. C'est toujours facile à dire et cela dispense de tout examen profond. C'était même, si vous voulez, un monomaniaque. Son idée fixe était de jeter le pain dans les latrines. Il se ruinait dans ce but chez les boulangers. On ne rencontrait jamais sans un gros pain sous le bras qu'il s'en allait en sautillant d'aise, précipité dans les goguenots de la populace. Il ne vivait que pour accomplir cet acte, et il faut croire qu'il en éprouvait de furieuses jouissances. Mais sa joie devenait du délire quand l'occasion se présentait d'en offrir le spectacle à de pauvres diables crevant de faim. Il avait 30 000 francs de rente, celui-là, et se plaignait de la cherté du pain. Méditez attentivement cette histoire vraie, qui ressemble à un apologue. Je n'eus pas le désir de baiser les loques de M. Pleur, mais son récit me fut assez clair, sans doute, car je crus entendre galoper au-dessus de moi toute la cavalerie des abîmes. La dernière fois que je rencontrai ce Platon de la Lésine, savez-vous, me dit-il, que l'argent est Dieu et que c'est pour cette raison que les hommes le cherchent avec tant d'ardeur? Non, n'est-ce pas? Vous êtes trop jeune pour y avoir pensé. Vous me prendriez infailliblement pour une espèce de fou sacrilège si je vous disais qu'il est infiniment bon, infiniment parfait, le souverain seigneur de toutes choses, et que rien ne se fait en ce monde sans son ordre ou sa permission, qu'en conséquence nous sommes créés uniquement pour le connaître, l'adorer et le servir, et gagner par ce moyen la vie éternelle. Vous me vomiriez si je vous parlais du ministère de son incarnation. N'importe. Apprenez que je ne passe pas un jour sans demander que son règne arrive et que son nom soit sanctifié. Je demande aussi à l'argent, mon rédempteur, qui me délivre de tout mal, de tout péché, des pièges du diable, de l'esprit de fornication, et je l'implore par ses langueurs aussi bien que par ses joies et par sa gloire. Vous comprendrez un jour, mon garçon, combien ce Dieu s'est avili pour nous autres. Rappelez-vous, mon maniaque, et voyez à quels emplois la malice des hommes le condamne. Moi, je n'ose plus y toucher depuis 30 ans. Oui, jeune homme, depuis 30 ans, je n'ai pas osé porter mes pattes malpropres sur une pièce de 50 centimes. Quand mes locataires me parlent et me paient, je reçois leur monnaie dans une cassette précieuse en bois d'olivier qui a touché le tombeau du Christ et je ne la garde pas un seul jour. Je suis, si vous le voulez le savoir, un pénitent de l'argent. Avec des consolations inexprimables, j'endure pour lui d'être méprisé par les hommes, d'épouvanter jusqu'aux bêtes et d'être crucifié tous les jours de ma vie par la plus épouvantable misère. J'avais assez pénétré l'existence mystérieuse de cet homme extraordinaire pour entrevoir qu'il me parlait d'une façon toute symbolique. Cependant, les paroles saintes, aussi rudement adaptées, m'effaraient un peu, je l'avoue. Il se dressa tout à coup, levant les bras, et je le vois encore, semblable à une potence géminée d'où pendraient des haillons pourris de quelque ancien supplicié. Oh, dites assez par le monde, me cria-t-il, que je suis un horrible avare. Eh bien, vous raconterez un jour que j'avais découvert la cachette infiniment sûre, dont aucun avare avant moi ne s'était encore avisé. J'enfouis mon argent dans le sein des pauvres. Vous publierez cela, mon enfant, le jour où le mépris et la douleur vous auront fait assez grand pour ambitionner le suprême honneur d'être incompris. Monsieur Pleur nourrissait environ 200 familles, parmi lesquelles on aurait cherché vainement un individu qui ne le regarda pas comme une canaille, tellement il était malin. Mais aujourd'hui, juste ciel, où donc est la multitude pâle des indigents assistés par le délégataire épiscopal de ce pénitent?